Ti voglio bene alla squadra azzurra. Je veux te voir chez nous en Italie.
Moi je veux plus voir en Italie.
Je sais, je sais. Voilà. Sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time, le dernier de l'année, les amis. Le dernier, c'est un plaisir, un bonheur, bien évidemment, d'être en votre compagnie pour tout simplement un épisode bilan. Voilà, on recevra dans cette émission le vainqueur du Football Time Award, celui qui a été le meilleur, le plus régulier surtout, le plus constant au regard de la saison. On vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité du début à la fin de la saison. Vous avez été fantastique. Merci pour vos commentaires. C'était vraiment, vraiment fantastique et je pense qu'on a pris énormément de plaisir. On vous le dit d'ores et déjà, évidemment, tout ça se paye. Le petit like et évidemment le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas qu'à 10 000, évidemment, on vous offre des cadeaux. Mais on va présenter pour la dernière fois nos chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Comment va mon Xavier ?
Il va pas trop mal. Un peu déçu qu'on soit déjà à la dernière de la saison, mais à part ça, ça va pas mal.
Ça fait plaisir, effectivement. En plus de ça, Thomas, il y a un public derrière nous aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Vas-tu être aussi à l'aise pour donner ton point de vue sur les joueurs?
Très honnêtement, je suis très intimidé là, je suis pas emmerdé. Non, ça ira, ça ira.
Ah, okay. C'est chouette. En tout cas, ça fait... Merci encore une fois pour cette saison. Je le dis déjà, je le dirai aussi à la fin, mais on a pris beaucoup de plaisir avec aussi les expertises de Quentin, évidemment, on ne peut pas les louper. Comment ça va, mon Quentin?
Ça va très bien. Triste, hein. C'est la dernière de la saison. Mais bon, on a beaucoup de choses à dire. Un bon bilan à faire.
Oui, un bon bilan à faire. Alors, au moment où on tourne cette émission, bien évidemment, il reste une petite journée de Champions Playoff. Donc, on va évidemment jouer carte sur table. Je vais donc vous poser la question qui me paraît un peu légitime. On sent évidemment l'Union Saint-Gilloise foncer vers le titre. Mais je vous pose quand même la question, est-ce que vous les voyez craquer pour la dernière journée face à la Gantoise qui vient d'exclure 6 joueurs de son groupe? Ouais. C'est assez dingue.
C'est le choc de l'histoire, je pense. S'ils sont pas champions, ça sera incroyable. Parce que quand ici, en playoff, ils peuvent faire un 28 sur 30, ils ont 2 goals encaissés en 9 journées, 19 goals marqués. Et la Gantoise, je pense, c'est 29 goals encaissés, c'est le pire de l'histoire de tous les playoffs 1. À domicile en plus, avec un stade comble. Le nombre de personnes qui m'ont déjà demandé pour avoir des places, ouais, c'est pas avoir des places, c'est pas avoir des places pour l'Union, mais là, c'est impossible, les gars. C'est, franchement, s'ils arrivent à ne pas être champions à domicile comme ça, je le dis, c'est le plus grand choke de toute l'histoire du championnat belge.
Thomas, d'ores et déjà, félicitations, parce que t'avais raison sur nous trois, je pense. Enfin, on peut anticiper. Ouais. On s'est battus, nous deux, parce que je pensais que le club de Bruges allait être champion. Non, ça a été l'Union.
Bon, après, c'est pas encore fait, hein. Il reste un match, mais comme le disait Quentin, ça paraît quand même fort improbable que l'Union soit pas champion. Ouais. Surtout que bon, ils ont fait les playoffs incroyables. Faut aussi mentionner le fait que la défense a été impériale, puisqu'on parle beaucoup de l'attaque, mais la défense de l'Union a vraiment été exceptionnelle. Donc, moi, j'étais persuadé que l'Union serait champion. Et j'espère qu'on pourra faire ce bilan final la semaine prochaine.
C'est qui l'homme fort des unionistes cette saison, Xavier?
Pour moi, c'est vraiment... c'est pas un joueur de champ. Pour moi, c'est vraiment Kevin Miralas. Que j'ai l'impression que l'Union a vraiment pris une autre dimension lorsqu'il est arrivé à côté de Pocconioli. Avant, je trouve qu'il se cherchait autre. Et depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il est plus tout seul, Pocconioli, l'Union a vraiment pris... J'ai l'impression qu'ils ont changé de visage. Les attaquants... ils se sont trouvés, ils ont trouvé la bonne paire qui fonctionne, maintenant tout le groupe est content. Dès, tu vois, même quand c'est pas un attaquant, n'importe quel joueur qui sort du côté de l'Union, il va d'abord toujours trouver Miralas avant de trouver Pocconioli. Si tu regardes bien. Et je trouve que c'est peut-être lui vraiment qui a vraiment fait la différence aux côtés de l'Union.
Bah moi évidemment, c'était Sébastien Pocconioli que je trouve absolument impressionnant pour une première saison qu'on a énormément critiqué au début de saison, peut-être par naïveté ou peut-être par manque d'expérience, et qui a su quelque part un peu combler ses lacunes au fur et à mesure de l'année. Il est vraiment impressionnant. Et puis surtout, j'ai eu 2-3 infos de ce qui se vivait en interne du côté de l'Union. Il était... dans les dernières semaines qui se vivaient, vraiment, avec son groupe, en tout cas, dans une communication qui consistait à dire « c'est eux contre nous ». Même contre la presse, contre la communication, contre tous les gens, entre guillemets, qui pouvaient un petit peu nuire au cocon unioniste, il a vraiment réussi à créer une espèce de groupe ultra déterminé qui va se battre jusqu'à la fin. C'est peut-être lui l'homme de la saison aussi, Miralas, ok? Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Ouais, non, je trouve que son analyse, elle est plutôt pertinente parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en début de saison, l'Union, c'était souvent des 0-0, des 0-1, des 1-0. Ils marquaient très peu. Et pourtant, ils avaient beaucoup d'attaquants. On pense notamment à Fusaini qui marque pas mal en ce moment, David, Ivanovic et tous les joueurs qui marquaient pas en début de saison. Et Miralas est arrivé, a fait son job. C'est l'entraîneur des attaquants, donc je pense qu'il a vraiment dû apporter quelque chose en plus. Et c'est vraiment potentiellement le tournant de du côté de l'Union. Après, moi, je pense surtout à des joueurs qui sont là depuis des années. Je pense notamment à Maurice, on peut pas regarder à côté. C'est un gardien exceptionnel. Durant ses playoffs, il a été impérial aussi. Beaucoup de clean sheets. Mais j'aime beaucoup, moi, c'est Charles Van Hout qui a vraiment été le maître au milieu de terrain de cette équipe, même s'il a été blessé pendant un moment. Mais c'est vraiment un joueur clé de cette équipe de l'Union. Donc, il y a beaucoup d'hommes qu'on peut citer. Mais moi, je choisirais quand même pour un Anthony Maurice.
Mais tu désigne uniquement des joueurs qui se démarquent par leur aspect collectif. Ça aussi, c'est très Union, Quentin. Ouais.
Exactement. Et l'aspect collectif, moi, je te rejoins aussi sur Sébastien Pocognoli, parce qu'il a vraiment réussi à inculquer aux joueurs qui étaient là, mais son ADN en tant qu'ancien joueur de football. Et c'est ce qui manquait, c'est ce qui faisait défaut à l'Union ces dernières années en playoff. C'est là qu'il craquait. Et là, avec Pocognoli, il a vraiment mis cette grinta, cette combativité. L'Union n'a pas forcément dominé tous ces matchs en playoff. Mais tu pouvais le voir, ils allaient au charbon, ils mouillaient le maillot contre Anderlecht. Ici encore le dernier match, Anderlecht avait la balle. Le premier défenseur touchait la balle, t'avais trois gars de l'Union qui étaient directement dessus. C'était un pressing constant et tout. Et ça, on retrouve ça dans Pocognoli quand il jouait. C'était ne jamais rien lâcher, toujours mouiller le maillot, toujours se battre. Et c'est ce qui a fait la différence, parce qu'ils étaient troisième à la fin de la phase classique. Ils étaient troisième et ils font peut-être faire un 28-30. C'est magnifique.
Mais ça, c'est pas plutôt l'identité Union, parce que ok, certes Pocognoli était comme ça, mais on peut pas dire par exemple les saisons précédentes que Thomas, un Perta, s'ils étaient pas là pour mettre le pied.
Il manquait ce petit truc, toi. Est-ce que du coup, c'est Pocognoli qui a réussi à le faire venir? C'est
peut-être,
une possibilité.
Il a peut-être accentué la chose, mais pour moi, c'est l'identité unioniste, ça. Pocognoli qui a rapporté ça.
Pour moi, ce qui est intéressant dans ce match face à Anderlecht, c'est que, alors qu'au début de la saison, on sentait véritablement les défenseurs aux côtés de Christian Burgess, véritablement, ils étaient un peu dépendants de sa forme, on va dire la vérité. Là, contre Anderlecht, il n'était pas là, Christian Burgess. Donc, c'était.
Si, il était là contre Anderlecht. Ici, il n'était pas là.
Ils ont gagné 4-0, ils ont fait le travail.
Oui,
quoi.
Bien sûr.
Ils sont capables de s'adapter, parce que collectivement, c'est aussi le travail d'un Sébastien Pocognoli de savoir, à un moment donné, avoir un niveau équitable dans tous les secteurs de jeu. C'est hyper homogène, en fait, ce qu'il propose.
Ouais, moi, je trouve que justement, c'est que Pocognoli, il a mis en sorte qu'à l'Union, il n'y a pas de statut, j'ai l'impression. Tu vois, il y a plein de joueurs, genre, par exemple, s'il y avait une absence. Ben, il mettait le remplaçant. Si le remplaçant prestait bien, match d'après, même si l'autre revenait de suspension, c'est le remplaçant qui avait bien presté, qui restait. Et le fait, l'absence, entre guillemets, de statut, et que tout le monde est à même niveau, que si tu presses bien, tu joues, je pense que ça aide aussi pour avoir tout un groupe vraiment focus et concentré sur le même objectif.
Apparemment, le travail d'entraînement aussi était très important. Noir Etelage, je disais, notamment en coulisses, qu'il avait jamais vécu des entraînements aussi durs, et il est passé par Anderlecht et par le KRC Genk. Donc, c'est peut-être aussi le niveau d'intensité qui a monté dans le cran, alors que, franchement, Alexander Blessin était quand même quelqu'un qui allait sur le gegenpressing, l'intensité. Beaucoup. Et visiblement, Poco, il monte encore d'un cran.
Mais je suis d'accord avec Xavier, c'est, il n'y a pas du tout de statut, parce que, par exemple, t'avais, Van Hout qui était suspendu, qui était blessé, Van de Peer qui était titulaire, qui a fait des bons matchs. Du coup, Van Hout est revenu de blessure sur le banc. Ici, Van de Peer.
Ça fait deux matchs, par contre.
Ouais, Van de Peer suspendu. T'as Aitelage qui revient, Van de Peer revient de suspension, il relaisse un Noir Aitelage. Pareil avec David, Promise David, ça fait deux fois qu'il revient de blessure, qu'il est sur le banc, Fousseini a presté, Fousseini reste titulaire. Donc c'est vraiment, tu performes sur le terrain, mais c'est pas parce que tu reviens de blessure, tu t'appelles un tel, mais non, c'est toi qui es le titulaire. Et donc ça faut aussi de se dire, le remplaçant, j'ai ma chance, je dois la saisir, si je la saisis, je vais peut-être encore rester titulaire. Et ça, c'est important, je pense.
Et ce qui est dingue dans la direction de l'Union, c'est que maintenant, et même chez les supporters, il y a plus de hantise liée au fait que les joueurs partent. On sait que de toute façon, comme ça a été chaque saison, ils seront remplacés et ces joueurs-là seront efficaces. Avant, on pouvait quand même légitimement se dire comment on va faire sans un Amoura, sans un, Van Zer, etc. À l'époque. Cette fois-ci, à chaque fois, ils ont été remplacés. Donc, il n'y a même plus cette crainte. Et donc, ça me fait poser une question qui revient à ce que j'ai lu, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sporting d'Anderlecht n'est pas dépassé par l'Union Saint-Gilloise? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union Saint-Gilloise n'est pas le premier club bruxellois? C'est pas moi qui le dis, je l'ai lu des posts de supporters de longue date du Sporting qui dit ça.
À l'instant T, oui, parce que l'Union va potentiellement être champion. Maintenant, ça va très 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 vite dans le football. Anderlecht reste un club historique et la saison prochaine, ça peut être totalement autre chose. Et justement, c'est Anderlecht dès cet été de bien travailler là-dessus. Mais faut pas les enterrer. Et ça peut aller, comme je dis, ça peut aller très vite. Et Anderlecht peut battre l'Union la saison prochaine. Mais à l'instant T, bien sûr, l'Union va être champion, donc ils sont meilleurs qu'Anderlecht.
On va continuer sur ce bilan avec un petit mot quand même sur le Sporting d'Anderlecht. C'est quand même assez morose, tout ce qui est en train de se passer du côté du Sporting. On sent quand même qu'il y a un manque de niaque dans cette équipe, un manque d'envie.
c'est apathique, quoi.
La facilité que, enfin, dont Bruges a eu pour aller remporter cette rencontre, Anderlecht. Enfin, très honnêtement, je pensais pas que Bruges allait gagner Anderlecht. Je pensais que, bon, Anderlecht allait tout faire pour justement mettre Bruges hors de la course, mais visiblement non. Franchement, la défense, c'est une passoire. C'est ça passe tout facilement. C'est trop facile.
Il n'y avait pas un avis unanime sur ce plateau concernant le cas de Bechnikazi. Vous n'étiez pas tous d'accord. Est-ce que maintenant, avec ce match face à Bruges, vous avez peut-être révisé ou alors vous avez un avis opposé? Est-ce qu'il faut continuer avec Bechnikazi, Thomas?
Ah non, mais moi j'ai toujours dit que c'était une erreur de casting. Clairement, c'est vraiment un choix horrible. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse aller chercher, comme j'ai déjà dit, un entraîneur qui était dans un club de bas de classement pour faire venir Anderlecht. Et même, je l'ai toujours dit aussi, c'est un truc que je comprends pas le principe, c'est d'aller rechercher des anciens entraîneurs qui ont fait peut-être gloire par le passé, mais ça veut pas dire qu'ils vont faire la même chose avec leur club dans un autre temps. Ouais. On a eu la même chose avec Courtrai, avec Van der Hag. On pensait que Van der Hag allait sauver Courtrai, mais au final, c'était la pire période de Courtrai cette saison.
Ouais, et puis en plus, Quentin, on parlait de retrouver une identité quand on a fait venir Bechnikazi. Très certainement, sur le terrain, elle n'existe pas.
Non. Après, Bechnikazi, je pense il va s'entêter avec son dispositif à Malines. C'était son 3-def. Et moi, je trouve qu'Anderlecht doit jouer avec un 4 défensif et avec deux attaquants. Anderlecht, ils doivent mettre la pression. Ça reste Anderlecht. Tu dois montrer que le nom Anderlecht fait encore peur. Donc, je pense qu'ici, ils vont avoir une bonne période cet été et ils doivent vraiment bien travailler là-dessus et doivent repartir sur de bonnes bases.
J'ai vu une petite lueur d'espoir, voilà, un petit éclair. Je vous en parle, les amis. C'est le petit Kanaté. J'ai beaucoup aimé son entrée au jeu. Comme quoi, il y a quand même des idées dans les transferts d'Olivier Renard. Tout n'est pas acheté du côté du Sporting d'Anderlecht, mais est-ce qu'on va lui laisser le temps? Quand on voit encore cette direction qui change tous les 4 mois, il y a des nouveaux head of sport, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui décident. Est-ce que Olivier Renard, quelque part, est au bon endroit pour exprimer sa méthode footballistique?
Ouais, c'est ça, même, on a vu, les supporters, ils pensaient qu'il y a une chose, c'était le Waterbeuton, il y a même devant le stade, ils ont fait un stand exprès, ouais. Ils vendaient des choses et tout pour Waterbeuton.
Ah, apparemment, ils ont mangé une bonne paire,
bonne part de gâteau. Ah oui, il y a le gâteau, sur les réseaux sociaux, il y a le gâteau avec le Water. Donc je pense que les supporters, ils en ont marre, donc je pense qu'il doit y avoir des changements aussi à ce niveau-là, parce que quand la base est pas bonne, ben le résultat, ils peuvent pas être là. On en a déjà parlé dans d'autres clubs aussi, c'est pareil. Donc tant que ta base est pas bonne, ça ne peut pas aller. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un statut que tu sais pas trop.
Alors pour la séquence, parce qu'on va évidemment passer à une séquence un peu plus bilan, j'ai repris ton happening.
Mon concept à moi.
Je l'ai repris, voilà, tac, je l'ai aspiré, je l'ai volé.
C'est cadeau.
Et je l'ai changé. C'est le qui a été, tout simplement. Le qui a été, il est très simple. On va se baser tout simplement sur les gardiens, les milieux de terrain, les attaquants, les entraîneurs, les transferts qui vous ont marqué. On va démarrer bien évidemment avec, selon vous, en tout cas, le meilleur gardien de but. Alors, on a entendu Maurice d'un côté, voilà. Je sais que Kozoman, c'est aussi ton préféré. J'espère qu'il y aura des débats et que vous serez pas tous d'accord sur le même joueur au niveau des gardiens. Parce que il y a quand même vraiment, dans ce secteur-là, du grain à moudre et des choses à dire. Xavier.
Bah moi, ça c'est vraiment Kozoman, dans le sens, ok, il a moins de clean sheet que Maurice fin de saison, mais pour moi, c'est le gardien qui a fait gagner le plus de points à son club toute la saison. Que Maurice, il a fait une bonne saison, mais ça, c'est la défense qui a fait un super job. Anderlecht, il n'y a pas de défense. Donc, tu as besoin du gardien. Bah ouais, pour moi, franchement, Kozoman, si t'as pas Kozoman, Anderlecht, il est jamais en playoff 1.
Ok, Kozoman, alors Maurice pour Thomas?
Non, c'est parce que c'est l'homme de l'Union que ça doit forcément être le meilleur gardien de la saison.
Monsieur Tatillon, monsieur expert.
Non,
très bien.
Je rejoins Xavier, je prends Kozoman aussi parce que c'était quand même la meilleure défense de la phase classique et il a quand même sauvé Anderlecht à pas mal de reprises, donc je prends tout ça en considération et c'est lui que je choisis.
Quentin, je t'attends avec
Anthony Maurice.
Évidemment, il allait le dire, c'est sûr.
C'est bien que j'aime bien les stats. C'est l'Union et l'équipe qui a le moins encaissé sur la phase classique. Quand tu regardes dans les playoffs, tu joues contre les 5 meilleures équipes du championnat, t'encaisses 2 goals en 9 rencontres. Il y a rien à dire. C'est clairement un élément déterminant du titre et je suis content pour lui parce que ça fait combien d'années qu'il est à l'Union, qu'il rate à chaque fois ça de peu. Ouais. Et on a connu les playoffs d'Anthony Maurice les années précédentes. Il y avait des fois des petites erreurs et tout qui ont coûté cher. Donc là, ça fait plaisir pour lui de justement, il a rien lâché, il a continué à se battre, il a cru. Et il a fait de très 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 bons playoffs.
Ouais, c'est courageux. Hein. Et dire qu'il aurait pu signer au Standard cet été dans des discussions qui avaient eu lieu, c'est incroyable. Et finalement, il a bien fait de rester du côté de l'Union Saint-Gilloise. Je suis un peu déçu parce que Thomas, je m'attendais quand même à ce que tu me prononces la personne évidemment pour lequel tu as fait une propagande absolument incroyable cette année. C'était évidemment Mathieu Ipolo.
Mais comment tu peux choisir Ipolo alors qu'il n'a pas joué toute la saison? Déjà ça, c'est pas possible.
Donc, 10 clean sheets cette saison, t'aurais pu dire. Il a fait 10 clean sheets, il a pas joué beaucoup, c'est incroyable, machin.
Ouais, mais 10
T'aurais pu utiliser cet argument-là.
Ok, mais 10 clean sheets jusqu'à octobre. Donc, mon argument, il tombe à l'eau, quoi. Enfin, ouais. Je veux dire, après, on n'a plus rien vu. Donc, je l'adore. Mais pas de là à dire que c'est le meilleur gardien de la saison, c'est impossible.
Mathieu Epolo, qui devrait quitter le Standard cet été. Il fait partie des joueurs, en tout cas, sur lesquels le Standard a mis une petite pièce pour pouvoir être vendu. Toi qui as l'air de beaucoup l'apprécier cette saison, mon cher Thomas, je voulais quand même te poser la question de où est-ce que tu le verrais. Dans quel championnat penses-tu qu'un joueur qui a son profil en tant que gardien pourrait exceller?
Bah, pour moi, déjà, il devrait rester en Belgique. Je vois pas pourquoi il devrait quitter la Belgique, parce qu'il faut qu'il confirme. Il a, comme je disais, il a joué quelques matchs, il a fait 10 clean sheets, mais il a pas joué une saison complète. Donc, faudrait d'abord confirmer en tant que titulaire dans un club belge, et après, on verra où il pourrait y aller.
Tu vois quel club belge mettre 3,5 millions?
Moi, je dis pas qu'il doit partir. Moi, je le vois très bien au Standard. Je vois pas pourquoi il devrait partir du Standard.
Parce que je vais te le dire, je vais te répondre, parce que le Standard a besoin de vendre, jusqu'à 14 millions d'euros pour équilibrer.
Bah, ça va, ils ont vendu O'Neill, c'est déjà pas mal.
2 millions plus 500 000 de bonus, c'est pas ça qui va sauver
Terre. Valeur marchande, t'en as pas beaucoup qui ont 3-4 millions.
Bah, c'est ça. Je pense que c'est surtout le joueur qui a la plus grosse valeur marchande. Je sais qu'il y a de l'intérêt également pour Nathan Ngoy.
Et t'as Fossé aussi, qui est international et qui fait 3-4 millions aussi. Donc, vends les 3, t'arrives
tout doucement à 14.
Même pas à 14.
Ouais. Il faudra équilibrer effectivement le noyau. Mais donc, Mathieu Epolo, tu le vois pas nécessairement quitter.
Bah, moi, j'aimerais pas qu'il quitte. De le voir. Je ne le vois pas. Je ne veux pas qu'il quitte. C'est différent.
D'accord. Alors, on va passer évidemment maintenant au meilleur défenseur. Le meilleur défenseur, ça peut se jouer entre différentes équipes, parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment été impressionnants, notamment au regard des clubs européens qui ont eu un grand œil. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, mais les Sud-Américains. quel est ton défenseur préféré ou le meilleur défenseur selon toi cette saison?
Moi, je pense que c'est un nom que tu t'attends peut-être pas forcément. Pour moi, c'est Watanabe de la Gantoise.
Le meilleur de la saison, c'est Watanabe.
Ben, honnêtement, ouais, je pense qu'il a quand même sauvé beaucoup de fois la peau de Gant.
Très bien.
Il a quand même si ici en playoff ils se sont effondrés, mais de manière générale pendant la saison, je trouve que France, un défenseur qui a confirmé, il était déjà bon à Courtrai, parce qu'il a déjà fait une super saison à Gand. Cette année, il a encore confirmé, malgré que Gand, il n'est pas dans une top équipe, mais malgré ça, je trouve que défensivement, c'est le meilleur défenseur en Belgique actuellement.
Raison pour laquelle il y a des discussions, notamment avec Feyenoord, qui a l'intérêt de Feyenoord. Ça veut dire que c'est quand même un joueur qui attire au niveau de l'étranger. Très fiable, il va 28 ans, il va avoir 29.
Ouais, je pense, il est pas tout
joueur
jeune,
d'expérience.
Mais il est plus ou moins à maturité, comme on dit.
Voilà, c'est ça exactement. Un petit peu antagoniste, comme avis. Je m'attendais pas à Watanabe, Thomas.
Moi, ce sera McAllister, parce que c'est un joueur que je trouve hyper régulier. On est toujours content de lui. On ne dit jamais de négatif par rapport à lui, si ce n'est de prendre des fois des cartes rouges un peu bizarres pour des tacles un peu forcés. Mais sinon, à part ça, je trouve que il fait partie du trio défensif de cette équipe d'Union qui a fait des playoffs exceptionnels. Et je trouve juste que c'est un joueur régulier. Et comme je disais, on est toujours content de lui. Donc pour moi, c'est lui. Je vois pas d'autres personnes, si ce n'est peut-être Mekele. Mais vu qu'ils vont être champions, l'Union, faut que je prenne McAllister.
T'en as oublié un, mais je le dirai tout à l'heure.
Quentin. Et moi, c'est Brandon Mekele. Parce qu'on l'a tout le monde. Dans la presse, dans les réseaux, chaque année, il est critiqué. Chaque année, il est titulaire. Et cette année, je trouve que ça a été sa meilleure saison. Mm-hmm. Il a fait vraiment des bons matchs. Brandon Mekele.
Alors, moi, je vais quand même me baser sur, le potentiel de développement. Parce que, voilà, quand il y a des grands clubs qui viennent à un moment donné vous observer dans des petits stades de 9000 personnes, c'est que vous êtes quand même un joueur qui a vraiment quelque chose à jouer dans le football européen à un moment donné. Joël Ordóñez. On peut dire ce qu'on veut, Joël Ordóñez, on est d'accord. Parfois dissipé, manque de concentration, ça a coûté des buts à Bruges, d'accord avec vous. Mais sur ce qu'il est capable de devenir comme défenseur, quand je vois l'évolution de William Pacho.
Si on parle d'avenir, madre mia,
il est fort.
Clairement,
si on parle madre mia, qu'il est fort.
Parce qu'il a une marge de progression incroyable. Donc,
On ne peut pas dire que c'est le meilleur de la saison. Certes, il a un potentiel énorme. Il va peut-être devenir l'un des meilleurs si tu veux. Mais cette saison, il y a...
Le plus régulier, en tout cas, effectivement, ça a été peut-être Brandon Mekele, je rejoins Quentin, effectivement. Mais très critiqué, mais quelque part, c'est vrai que chez les Diables, il n'a pas non plus toujours répondu. Hein. C'est la vérité. Dire des critiques, elles sont un petit peu quand même justifiées.
Même en championnat, quand on regarde les années précédentes, à Bruges, j'ai souvent eu des critiques comme quoi, Mekele est surcoté, Mekele est surcoté. Et il est encore là, il est encore titulaire, il est encore présent dans le plus grand club de Belgique. Mm-hmm. Et il fait encore ses matchs, donc...
Ouais, bon, je voulais vous démarrer avec un petit pire milieu de terrain, mais je sais que ce sera O'Neill pour Quentin, donc je vais pas lui poser la question.
C'est même pas O'Neill, c'est un joueur du Bescot.
Le pire milieu de terrain, c'est un joueur du Bescot.
Ouais, pour moi c'est Cagro. Il a joué 11 titularisations, il a pris 2 rouges et 5 jaunes. Je trouve que quand t'as ta chance comme ça, je sais pas, fait quelque chose. Parce qu'il était en concurrence avec Colasin, quand Colasin des fois ne jouait pas, était suspendu, blessé ou autre. C'est lui qui avait sa chance, mais je trouve qu'il a vraiment pas bien. utilisé.
Il n'a pas été, ouais, il a pas été suffisamment
efficace. Donc Cagro du Verscott.
Effectivement. Cagro donc du Verscott. C'est dingue parce que lui aussi était, enfin, il suscitait l'intérêt de plusieurs clubs de JPL cet été. Il n'a pas nécessairement réussi à se mettre en avant. Bon, le milieu de terrain, j'attends une adhésion de votre côté. Hein,
ouais, mais bon,
le milieu de terrain, je pense que, est-ce qu'on peut le dire, on le dit en même temps?
Ouais.
Allez, 1, 2, 3. Arda Djachary. Merci beaucoup. Oui, non, quel joueur extraordinaire. Quel joueur extraordinaire, Arda Djachary. Milieu de terrain, oh, moi, je suis amoureux. Hein. Je pense que c'est la vérité. Je l'ai dit chaque année. Enfin, je le dis chaque semaine. La manière dont il arrive à se projeter, ses balles longues, ses crochets courts, la façon dont il arrive aussi à être efficace pour son collectif, on l'a vu encore dans le match face à Anderlecht, la manière dont il se bat pour aller proposer une solution à Nilsson, qui évidemment, comme un énorme égoïste, ne lui fait pas la passe. Mais c'est fantastique. C'est un joueur qui a vraiment un niveau. Mais c'est fou comment
il est très fort.
Un temps on arrive à savoir lui en fait c'est niveau dessus quoi.
Ouais, clairement, même au niveau des récupérations de balles, il se donne à fond. Là il y a quelques semaines maintenant, on voit toujours Mekele en décrochage, lui il passe vers l'arrière aussi, il court, il va récupérer des ballons, enfin il est très polyvalent, il sait aussi bien son côté défensif que offensif, il est top comme milieu de terrain, on peut pas nier, et de toute façon on est tous d'accord, c'est le meilleur milieu de terrain de
ça va aller vite sur ce sujet
on peut passer.
Ouais, c'est clair. Bah sur les attaquants par contre, on a peut-être un petit débat qui peut s'enclencher. Xavier, t'as réfléchi à qui? Numéro 9.
Pour moi, le meilleur attaquant cette année, c'est Adriano Trattacini, puisque comme on a déjà discuté dans d'autres émissions, moi je suis pas forcément fan de Telou, et c'est les deux meilleurs buteurs, donc voilà, c'est un choix assez logique, je trouve.
Et selon toi, quelles sont les qualités principales d'Adriano Trattacini?
Je pense déjà, il a une bonne combativité, je pense que c'est intéressant, un attaquant qui se donne pour l'équipe, et puis il a un bon sens du but. Dans le rectangle, il rate beaucoup moins qu'un Tolu, par exemple. Et pour moi, un attaquant, même si tu travailles pour l'équipe, le ballon dans le rectangle, c'est attaquant, c'est pour le mettre au fond, c'est pas pour tirer 9 fois sur 10 à côté.
Voilà.
Donc voilà.
Puis ça doit te plaire aussi, le profil à la Pippo Inzaghi pour Adriano Trattacini. C'est quand même un profil un peu...
Surtout que les supporters du meilleur club au monde. Donc, voilà.
Ah, ça, c'est sur Rossonero. C'est ça, évidemment. Je ne partage pas cette opinion, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va aller sur l'attaquant pour Thomas. Tu as donné beaucoup de points aussi, Adriano Trattacini.
Bah, je me base justement un peu sur le nombre de points que j'ai donné cette saison lors du meilleur joueur de la semaine. J'en ai donné beaucoup à Ivanovic en début de saison. J'en ai donné beaucoup aussi à Trattacini durant la saison. Mais les playoffs, sont déterminants. Trattacini a été nettement meilleur que lui et premier au classement. Donc naturellement, je choisis pour lui parce que c'est un attaquant redoutable. Et c'est pas juste un attaquant qui marque avec son pied droit ou son pied gauche. Il est vraiment aussi bon dans la tête. On penserait pas alors parce qu'il est quand même assez petit pour un attaquant. Mais il est très technique aussi. Donc je trouve qu'il est très polyvalent dans son domaine. Et c'est important pour un attaquant.
Petit mais robuste, petit mais solide. Ça, c'est un gaillard. Quentin, même chose ou tu vas aller sur un autre attaquant?
Non,
peut-être un attaquant des Champions Players.
Non, je vais aller aussi sur Adriano Trattacini, parce que je l'en ai déjà dit précédemment. Je pense que si Saint-Trond reste en Division 1, ils peuvent clairement le remercier, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est 21 buts, c'est le même nombre de buts à l'heure actuelle sans la dernière journée de championnat qu'à Rocco d'Arrée. Mais il y en a un qui est servi par les joueurs de Saint-Tron et l'autre qui est servi par des joueurs de Genk comme Carreta, Stucker, c'est tout, qui a beaucoup plus de probabilité de marquer. Donc, il y a eu aussi beaucoup plus de chances d'arriver à ses 21 buts. Et puis, on l'a vu aussi dans les playoffs, Rocco d'Arrée n'a pas permis de mettre ses buts décisifs à Genk, de conserver ses premières places, alors qu'Adriano Trattacini a permis de mettre ses goals décisifs pour le maintien de Saint-Tron.
Puis je sais pas pourquoi il y a un mythe aussi sur les attaquants qui, on a le même problème avec Lucas Tassin du côté de Saint-Etienne, qui quand il marque dans un club de bas de tableau, il serait forcément moins bon que les attaquants qui marquent dans un club de haut de tableau.
Moi, je
trouve justement que pour trouver la faille et être aussi important au niveau des responsabilités, parce que sauver une équipe, c'est une responsabilité un peu comme l'est le fait d'aller chercher un titre, c'est tout aussi difficile, Thomas.
Clairement, parce que tu joues à Bruges ou à Saint-Tron, tu joues contre les mêmes défenseurs
du
championnat. Donc au final, tu affrontes les mêmes joueurs que les autres attaquants. Donc au final, certes, il y a peut-être l'aspect que t'es moins bien servi par des joueurs un peu moins techniques, etc. T'as moins d'occasions créées. Parce que comme il le disait Xavier, Rocco d'Arrée a eu énormément d'occasions et on a raté pas mal. Je suis d'accord. Et Trattacini, on a eu beaucoup moins. Donc le ratio est quand même nettement meilleur pour lui. Donc pour ça qu'on choisit pour lui, je pense.
Après, c'est des profils différents. Ouais. T'as Rocco d'Arrée, c'est vraiment le pur neuf. Ouais, c'est jouer qu'en neuf, alors qu'Adriano Trattacini a des fois pas joué qu'en neuf, parce que t'as Ferrari qui a joué devant, t'as Ilham Kelze qui a joué devant, donc aussi plus polyvalent aussi.
Et puis, je pense que c'est Xavier qui l'a dit cette saison de manière assez intelligente, Rocco d'Arrée rate énormément d'occasions. Ouais, ça, c'est un problème.
Il joue à Genk, et donc Genk, ils sont créés énormément d'occasions. Donc, entre guillemets, tu mets plus ou moins n'importe quel attaquant de Belgique, il finit aussi avec une vingtaine de buts, parce que t'as tellement d'occasions qu'au bout d'un moment, elles sont obligées de rentrer, toi.
Mm-hmm. C'était un peu le, ce qui était la,
ouais, enfin, mais il est important dans le groupe.
Tu vas pas mettre Dabag, il va pas te mettre 20, 20 buts, hein. Et...
Laisse un peu au die Dabag tranquille.
Par contre, regarde, tu prends l'exemple de Stulich qui va faire le roi. Il a une demi-saison, il en met 15. Tu le mets à Genk, il en met pas 15, il en met 20, 25, toi.
Mm-hmm. Ouais, c'est intéressant comme analyse. Justement, vous êtes en train de parler de transferts qui sont, qui ont eu lieu cet été, au die Dabag, machin. Je vais y venir, mais je vais vous demander de pas dire Adriano Bertacchini sur les transferts, parce qu'on l'a dit sur le meilleur, le meilleur attaquant. Le meilleur transfert, le joueur que vraiment, à un moment donné, le club qu'il a récupéré, voilà, va faire une plus-value, c'est une évidence.
Pour moi?
Ouais.
Solis. Rien à...
Christophe Solis.
Ouais, y a pas débat. On aurait même pu le mettre aussi dans les meilleurs attaquants.
Arrivé pour 6 millions
et
demi d'euros.
Et tu vas forcément le revendre pour au moins 20 millions. Donc, non, c'est un super coup de génie. Et ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient dessus. En plus, Bruges. Mais il est passé ensuite par Norwich, etc. Donc, ils ont pas réussi à l'avoir au début. Ils l'ont eu maintenant et ils font une super affaire.
Des années, effectivement. Ouais. 2 ans exactement qu'ils suivaient avec attention Christophe Solis. Là, maintenant, bah, je pense qu'ils étaient tellement convaincus qu'il allait pouvoir s'imbriquer et être efficace dans le système qu'ils ont réussi à le faire. C'est vrai que ça peut vraiment être le meilleur, le meilleur transfert.
Et les playoffs qu'il a fait, hein, incroyable, hein, faut le souligner. Il a été décisif quasi à tous les matchs. C'est vraiment très, très, très fort.
Il lui aura manqué peut-être un petit peu d'adresse sur le match à domicile face à l'Union Saint-Gilloise. Je me rappelle une reprise de volée.
Exactement, exactement.
Voilà.
Et même, je pense que c'est lui sur le match retour à l'Union qui, en fin de match, bute sur, sur Maurice. Donc, ouais, non, sa saison, elle est incroyable.
L'expérience de la JPL, hein. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il va devoir travailler. Il pourrait continuer à travailler. Ce qui est assez intelligent de la part du club de Bruges, c'est qu'on regarde déjà sur le marché pour aller chercher un ailier gauche parce qu'on sait que derrière, il va attirer, forcément. Il va y avoir des offres pour un joueur comme Solis, notamment en Allemagne et en Angleterre. Donc, on essaye peut-être de déjà regarder un remplaçant potentiel. Le meilleur transfert?
De base, c'était de Solis. Ben, sinon, on en a parlé précédemment. On est obligé de citer Jachari, hein, qui vient d'arriver dans notre championnat de France, c'est Luzerne, en Suisse. Et,
7 millions d'euros bonus compris. Ça a certainement vendu 40. C'est exceptionnel.
Imagine 40.
C'est très, très fort. Hein. Ben, Bruges a la capacité de bien vendre ses joueurs. On l'a vu dans le passé. Ici, par contre, je pense qu'ils devront encore le garder une saison, parce qu'il y aura les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Ils vont sûrement perdre Onyedika. Et je pense que si tu perds Onyedika, que tu perds Jachari et qu'il te reste que Van Aken dans le trio du milieu, je préfère qu'ils perdent un joueur. Qu'en perdre 2 sur 3, ça fait beaucoup. On sait quand même que c'est la pièce maîtresse de cette équipe, le milieu de terrain. Donc, essayer de le garder, mais ça va pas être facile, je pense. C'est quand ils vont voir les grosses liasses de millions posées sur la table. Après, s'ils vendent Ordóñez à je sais pas combien de millions, qu'ils vendent Onyedika à je sais pas combien de millions, potentiellement à De Kuyper, vas-y, tu vas pas en 24 quand même.
On est bien d'accord. Xavier.
Mais pour moi, je revois Quentin et Jachari. Pour moi, c'est le meilleur transfert cette année. On l'a vu, il était monstrueux aussi bien en Belgique que même en Ligue des Champions. Quand tu vois face à l'Atalanta, il fait un match de fou. Alors, par exemple, Solis, en Ligue des Champions, on l'a peut-être vu un peu moins. C'est pour ça que je choisis Jachari. Mais franchement, ouais, pour moi, c'est vraiment le meilleur transfert de cette année en Belgique, quoi.
C'est très diversifié, hein, de votre côté. Quand on voit les meilleurs de chaque secteur et les meilleurs transferts, on s'attend pas nécessairement à avoir beaucoup de joueurs de l'Union. On en a eu quand même avec McAllister au niveau des défenseurs et Anthony Maurice.
On peut parler de promesse David quand même. Ouais. 400-500 000 euros, aller chercher à Nome Kaljou en Estonie.
Et je m'attendais à ce que quelqu'un le nomme dans les attaquants, en fait, à vrai dire. Moi, je suis d'accord avec toi.
Le transfert, c'est vrai que lui, on aurait pu le mettre dans le meilleur transfert. Ouais. Pas meilleur attaquant, parce que je trouve qu'il a encore une énorme marge de progression.
Et
il est monté crescendo, il est monté en puissance. Puis, quand tu viens d'Estonie, je pense qu'il doit aussi t'acclimater au championnat belge, ce qui doit vraiment pas être facile. Il est encore très jeune, également. Mais ce que fait l'Union, aller chercher des joueurs en Estonie, et le joueur, il marquait des goals en Estonie, mais c'est le championnat estonien. Avec tout le respect que j'ai, je connais pas forcément le championnat estonien, le niveau doit pas être incroyable.
Ouais.
Mais là, ce qu'il arrive à faire, franchement, c'est chapeau. La cellule de scouting de l'Union, honnêtement, elle est incroyable.
On rappellera que Victor Boniface, quand il est arrivé à l'Union en provenance de Bodø/Glimt, n'avait que 13% de minutes jouées avec Bodø/Glimt quand il était là-bas.
Ouais.
Et il considérait d'ailleurs du côté des Norvégiens que c'était véritablement une aubaine que de recevoir 2 millions d'euros pour un joueur pareil. Il est parti pour 20, quoi. Donc voilà un peu la façon aussi dont on a le flair du côté des unionistes.
Ouais,
on arrive à gérer en tout cas bien les choses. Bon, maintenant, je vais quand même vous demander un petit flop, hein, parce qu'on a été gentil, on a décerné les fleurs. Faut à un moment donné aller un peu sur le mastic. Le flop de la saison. On va pas faire tous les joueurs, un seul. Le flop de la saison pour Xavier.
Pour moi, ça va être Dendoncker. Tout simplement.
Leander Dendoncker, pire joueur de la saison pour Xavier.
Oui, il y a quand même beaucoup d'attentes par rapport. Quand tu vois le niveau d'attente qu'il y avait et son niveau final dans le gap est trop grand. Donc pour moi, ouais, c'est lui, franchement.
Ouais.
Après, il y a peut-être des joueurs que t'es moins bon, je dis pas le contraire, mais c'est vraiment la différence entre attente, parce que tu ramènes quand même, enfin, Anderlecht, tu ramènes Dendoncker, pour eux, ça va être genre le roi du milieu de terrain. Mm-hmm. Et au final, il était le roi de pas grand chose, on va dire ça comme ça.
Oui, mais il a fait quand même des bons Champions Playoffs.
Ouais, il a fait une bonne semaine, ouais. L'aller-retour contre Gant, ouais. Mais à part ça, il compliqué, pas... quoi.
Ouais, contre Anderlecht, tu l'as trouvé comment contre Bruges?
Contre Bruges, je l'ai trouvé plutôt bon, moi. Ouais. Je l'ai trouvé bon.
Ouais, mais c'est un peu tard pour travailler, quoi, toi.
Oui, mais bon. Ouais. Mais okay. Il était bon quand même.
Je pensais que t'allais dire Luis Vázquez, mais c'est pas grave.
Non, que c'est pas trop. Il était déjà l'année dernière, donc pour moi, c'est pas.
Oui, c'est pas ouais, le flop, flop de la saison.
Voilà,
parce qu'il
pour moi,
pas
le flop,
arrivé,
c'est un gars qui est arrivé cette année et qui a pas presté, quoi.
Bon, allez, c'est le transfert flop. Allez, il nous a mélangé tout ça. Xavier, c'est très bien. Leander Dondoker, donc, pour le Xav.
Bah, moi, j'ai choisi un joueur de Saint-Tron, pour plusieurs raisons. Vraiment, pour, il y a énormément de raisons. Mais l'âme qu'elle est. Parce que déjà, à partir du moment où, en tant que club, tu vas recruter un Lam Kelsey qui a déjà causé des problèmes dans deux autres clubs belges, tu sais que tu es en train de tirer une balle dans le pied. Il est aussi en grande partie responsable pour le licenciement de Felice Mazzu, ce qui m'a un peu peiné parce que c'est un excellent entraîneur que j'aurais voulu garder en Pro League. Là, pour lui, ça va être difficile du coup à cause de cette expérience-là. Et même niveau apport de jeu, ça a été catastrophique. C'est un enfant pourri gâté. Ouais. C'est horrible son attitude. Donc pour toutes ces raisons-là, je choisis lui.
Il y a un film qui s'appelle T'es une fois en Amérique qui dit The worst thing in life is the wasted talent. La pire des choses au monde, c'est le talent gâché. Merci, ouais. J'ai un peu l'impression que c'est l'histoire de Didier Lamkelzé. C'est évidemment très très triste hein, quand un,
ouais,
c'est un joueur sur lequel en plus tu comptais beaucoup.
Il avait
toi.
Du potentiel, bah principalement.
Tu avais une hype, on peut le dire.
Moi aussi j'avais la hype.
C'est un joueur qui a du potentiel. Tu te dis attends, t'as vu le secteur offensif que t'avais à Saint-Tron, t'avais un Lapoussin sur le côté gauche, t'avais un Dreyer Martinez, t'avais un Brahimi, t'avais potentiellement Kemzé. Après ça faisait peut-être un peu trop. Et mais c'est surtout le comportement quand tu voyais ce qu'il faisait avant, qu'il allait à l'entraînement avec le maillot de l'équipe adverse ou des on pourrait faire un livre de tout ce qu'il a fait, franchement c'est dommage.
Et c'est
parce que après moi il y a un joueur que j'adore, un de mes joueurs préférés, et c'est un joueur aussi qui avait un talent incroyable mais qui malheureusement n'a pas suivi en tête, c'est Mario Balotelli. Mario
Balotelli, ne parle pas de ça, je vais avoir mal au cœur.
Mario Balotelli,
c'est mon joueur préféré. Tu veux que je parte, je pleure, c'est quoi? Tu veux me faire pleurer pour la dernière, Quentin, c'est ça?
C'est le joueur qui avait un talent tellement monstrueux mais qui malheureusement dans la tête ça n'a pas suivi, donc
quel talent gâché, incroyable. Ton flop de l'année?
Mon flop de l'année, il a fait deux transferts, c'est un double transfert cette saison, cet été. Standard, Charleroi, Gretjan Kay.
Ah oui, mais il était obligé de me le sortir. Je me disais, s'il me le sort pas quand même.
Ah là 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 là.
L'été noir complet. Le mec est passé du dark au dark, quoi. Il est jamais ressorti de la lumière. Il a jamais vu
le bout du tunnel. J'avais vu les premiers matchs de la saison avec le Standard. Et j'avais des gens de ma communauté qui m'avaient dit, mais vous le prenez. S'il faut, je vais le conduire à l'aéroport et tout. Je fais, oh, vous me faites peur. Puis j'ai vu le premier match, je fais, oh là là, ça me fait peur. Et puis je vois Charleroi. Enfin, le Standard a réussi à le refourguer. Aller entre guillemets l'ennemi wallon à Charleroi, et Charleroi, je comprends pas ce que Bayat a fait, je comprendrai jamais pourquoi Bayat a été le chercher. Il l'a donné une fois sa chance, il a marqué un but, il était dans le petit rectangle et il a raté sa frappe, il a pris de la jambière, elle était dans la lucarne, donc il a encore la raté. Non, franchement, c'est mon flop de la saison.
Bah oui, en fait tu manges un petit peu mes mots parce que c'était effectivement ça. Moi j'allais dire Aiden O'Neill parce que je l'ai trouvé catastrophique dans le milieu de terrain, et un Standard de Liège qui fonctionne bien, c'est un Standard de Liège qui historiquement a des milieux de terrain extraordinaires.
Dire qu'il était capitaine.
On peut parler d'Axel Witsel, on peut parler évidemment de Stéphane Defour, de Marwan Fellaini, etc. Ça m'a tellement fait de la peine de voir ce milieu de terrain du Standard là que effectivement j'allais plutôt dire Aiden O'Neill. À vous de nous le dire, bien évidemment. Quel est votre gardien favori, votre défenseur favori de l'année, votre milieu de terrain, votre attaquant, votre transfert et votre flop? Pourquoi? Évidemment, ça se passe tout ça dans les commentaires, mais surtout parce que juste après le teasing du Xavier Vou qui va nous faire découvrir un club international, nous allons recevoir notre Football Time Award, notre Football Time Award Player of the Year, évidemment le joueur de l'année, notre joueur de la saison. C'est dans quelques instants, mais juste avant, on vient de vous le teaser, le Xavier Vou.
Ouais, bah cette semaine, on va parler de Manchester City. C'est un club, on parle beaucoup de son rachat en 2008 par les Émiratis, mais avant ça, ils ont quand même remporté 13 trophées, ce qui est pas mal pour un club anglais. C'est même le premier club anglais à avoir remporté un trophée national et européen la même année. Mm-hmm. Donc c'est vrai que le club a quand même une histoire avant le rachat en 2008.
Merci beaucoup Xavier. Puis on va te remercier également pour tout ce que tu as fait cette saison. C'était super de pouvoir compter sur tes petits avis piquants. Toujours très, tu sais, doucement quoi. En recul, mais il attaque.
Lui passe de la première vitesse à la sixième.
C'est ça exactement. C'est un boxeur défensif notre Xavier. Merci beaucoup
avec
en tout cas. Et on se retrouve dans quelques petits instants maintenant avec donc le joueur de la saison. À tout de suite. On est de retour, bien évidemment, pour le gagnant, le joueur de l'année, celui qui a été chercher ce trophée, le Football Time Award. Il est en face de nous, Adriano Bertaccini, mesdames, messieurs. Je t'en prie.
Merci.
Il est pour toi. On va se checker. C'est vrai que c'est... Le dispositif est un peu compliqué. Bah, félicitations. C'est toi qui as été le joueur le plus régulier du début à la fin de notre émission. Tu as pris le plus de points. C'est assez dingue. C'est incroyable. En plus, quand on regarde tes statistiques, c'est 21 buts, 4 passes décisives. Est-ce que tu avais projeté au début de la saison d'être à ce niveau-là à la fin?
Franchement, non. Moi, déjà, j'avais fixé un objectif de 15 goals. Jamais j'aurais pensé, surtout en fin d'année, en jouant la playoff 3, atteindre les 21 goals. Donc voilà, j'ai eu un très très bon niveau cette année. Voilà, je suis content de ce que j'ai fait cette année.
Ouais, allez, nous on est très très content en tout cas de parler de toi. Effectivement, on le disait en première partie d'émission, t'as été assez impressionnant. Je voulais savoir, est-ce que c'est difficile? Tu l'as senti vraiment? T'as dû aller t'arracher pour aller chercher les 21? Tu sentais qu'à un moment donné, c'était quasiment un combat contre toi-même ou c'était naturel?
Non, franchement, c'est venu naturellement. Le seul truc que j'ai dû avoir cette année, c'est l'efficacité, parce que il y a des matchs, j'avais peut-être une occasion, l'autre j'en avais zéro. À un moment, j'ai eu une phase difficile avec 5-6 matchs sans marquer. Voilà, ça a été complexe, mais c'est ça le point aussi que j'ai amélioré cette année, c'est vraiment avoir un ballon, un goal.
D'accord. Bah, c'est ça la différence avec Haruko Dare, justement, c'est ce que Xavier a tenté d'expliquer durant toute la saison, c'est que Haruko Dare, c'est un bon attaquant, mais il a eu beaucoup d'occasions, donc logiquement, il va avoir beaucoup plus d'occasions et donc des buts, et c'est ce que Adriano n'a pas eu cette saison, il a eu des occasions, mais pas autant que Haruko Dare, donc je trouve que la première place est nettement plus méritée pour lui qu'un Haruko Dare.
Ouais, justement, j'allais y venir. Quel est le domaine dans lequel tu penses que tu as le plus progressé, Adri? Quel est l'endroit où tu dis vraiment, quand j'étais à Liège, ça, je savais pas le faire, j'étais en difficulté, et maintenant, vraiment, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça?
Mais j'ai deux capacités. Enfin, c'est l'endurance, déjà, de un. Parce que moi aussi, j'ai connu le monde amateur. Et quand tu arrives comme ça en division 1 si vite, et tu vois l'aspect physique qu'il y a dans le match, il y a au moins 5 mondes de différence. Et ensuite, comme je l'ai dit, l'efficacité à Liège, j'avais quand même aussi quelques occasions. J'avais quand même 2-3 occasions par match. Ouais. Ici à Saint-Tron, comme je vais me répéter, j'en ai eu une. Et des fois, c'était goal. Donc voilà, ça, c'est les deux aspects que j'ai bien amélioré cette année.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que tu as appris des choses du monde amateur, que le football amateur t'a servi. Certains la desservent parce qu'ils perdent en motivation, ils n'ont plus la rigueur du monde professionnel. Toi, tu t'es servi de ce que tu avais vécu dans tes centres de formation, notamment le KRC Genk. Et derrière, t'as vraiment réussi à aller chercher ce qui fait quelque part un peu la beauté du football amateur, c'est ce côté pas très bridé en fait.
Mmh. Ouais, moi j'ai jamais rien lâché. J'ai connu les semaines avec 3 entraînements par semaine. Il y a bien des moments, je me suis dit, est-ce que je vais arriver un jour? Voilà, c'était difficile, mais j'ai jamais rien lâché. Voilà, j'ai beaucoup travaillé. Après, je travaille pas beaucoup en dehors des entraînements collectifs. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est les matchs, c'est là où on se montre, c'est là où tu montres le joueur que t'es, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis là.
Qu'est-ce que t'as mis en place, par exemple, pour justement arriver à ce nombre de 21 buts? Est-ce que c'était un travail plus spécifique à l'entraînement sur les centres? Est-ce que c'était un travail plus mental? Est-ce que c'était un travail plus au niveau de l'hygiène de vie?
Non, franchement, c'est plus mental. Par l'entraînement, je dis, moi, je travaille pas en plus, comme ça. Ça, c'est naturel. Je me suis juste concentré, je me suis dit, ouais, aujourd'hui, si t'as l'occasion, tu dois la mettre. Ne te mets pas la pression pour rien. Et voilà, c'est venu naturellement.
C'est intéressant, effectivement. Je voulais revenir sur ton passage à Genk, parce que moi, j'étais vu jouer au KRC Genk avec les U21. J'avais toujours l'impression que tu étais très bon, qu'on voyait qu'à chaque fois, tu avais de l'envie, etc., mais tu correspondais pas au bon format. Est-ce que tu l'as senti, ça, à un moment donné?
Oui, je l'ai senti. J'ai aussi senti qu'ils n'avaient pas confiance en moi. C'est aussi la raison pour laquelle je suis parti. Voilà, ils me l'ont fait comprendre. Moi, déjà, ce niveau que j'ai actuellement, je l'ai toujours eu. C'est juste qu'on m'a pas donné cette chance récemment, enfin, plus tôt. Mm-hmm. Je sais bien que si on me l'avait donné dès mes 19, 20, 21 ans, je crois que j'aurais pu être ailleurs aujourd'hui.
Mm-hmm. Est-ce que au niveau de la progression, tu penses que tu peux encore atteindre 2 ou 3 ou 4 niveaux supplémentaires? Comment est-ce que tu situes toi-même ta marge de progression?
Voilà, je vais te dire sur une barre sur 100, on va dire je suis peut-être à 50 là, parce que maintenant il faut voir ce que je peux donner ailleurs. Mmh. Voilà, c'est bien de le faire à Saint-Tron, mais il faut le faire aussi ailleurs. Si tu confirmes pas autre part, par exemple, ben on pourra pas dire que j'avais le niveau.
Et en termes de niveau, est-ce que pour toi tu te dis je vais jouer un top en Belgique où je vais pouvoir aller jouer peut-être la Champions League, peut-être l'Europa League, ou alors tout de suite c'est important d'aller me confronter au Top 5 League parce que je sens que j'ai le football pour le faire.
Franchement, moi ça m'est égal, je vais prendre ce qui vient. Après, bien évidemment, c'est toujours mieux l'étranger. Enfin, pour confirmer, quand tu joues dans un des top 5 championnats, ben, c'est là que tu confirmes le mieux. Tandis que quand tu joues en Jupiler Pro League, voilà, c'est un peu plus en dessous.
Tout à l'heure, on parlait de Mathieu Epolo dans l'émission en te disant, voilà, dans quel championnat est-ce que Adri pourrait être encore meilleur. Toi, est-ce que tu as, par exemple, une préférence en tant qu'expert, Thomas? Est-ce que tu le verrais dans un club spécifique ou une idée que tu as?
Bah, juste, c'est un peu le même constat qu'avec Epolo. J'aimerais qu'il reste en Belgique parce qu'il faut encore la confirmation supplémentaire dans un top club. Je pense que c'est important pour lui aussi de ne pas aller trop vite parce que je pense que s'il va dans un autre club à l'étranger, c'est peut-être un peu... Trop tôt, il faut qu'il confirme vraiment en Belgique et j'aimerais bien le voir, par exemple. Bon, on en a parlé en off. Le seul club où je le vois vraiment bien jouer, c'est dans le système de l'Union. Après, dans les autres clubs, je sais pas trop, mais l'Union, pour moi, ce serait le club idéal pour lui et surtout que je pense que Jovanovic et David vont partir, donc ce serait, et en plus, le côté mental, enfin, son histoire aussi colle à ce que l'Union a été cherché par le passé. Je parle notamment du fait que, bon, on connaît un peu l'histoire des attaquants qui ont passé là et qui y sont aujourd'hui. C'est des attaquants revanchards, qui ont connu des périodes un peu plus compliquées, qu'ils ont dû redescendre pour pouvoir remonter, donc ça colle parfaitement à sa carrière, donc c'est pour ça que j'irais plutôt l'Union.
T'es d'accord avec ça?
Ouais, franchement, l'Union, ouais, ça peut être un jeu qui me convient. Après, jouer le top en Belgique, ce serait énorme aussi.
Ouais, c'est clair. Ce serait en tout cas fantastique pour passer encore une étape. Ou même aux yeux des gens, peut-être que des gens sont convaincus que le public, l'opinion publique, mais tu sais comment le football fonctionne. C'est beaucoup de la visibilité, c'est beaucoup de l'image, etc. Toi, tu t'es un peu battu contre ça. C'est-à-dire que t'as vraiment à chaque fois été dit, regardez, je suis bon, venez me faire confiance, regardez, je suis bon. On a l'impression que c'est toujours... regardez, je suis bon, venez, à un moment donné, c'est votre tour de me faire confiance, quoi. Comment tu planifies ta carrière? Est-ce que tu as des choses en tête ou tu vas vraiment à l'opportunité, tu la saisis petit à petit et advienne que pourra, quelque part?
Non, déjà, mes choix, ils viennent à l'instinct. Donc, quand j'ai signé à Liège, j'ai reçu beaucoup de critiques, qu'ils vont prendre que des transferts de National 1 et tout ça. Voilà, après 6 mois, je suis meilleur buteur. J'ai un transfert à Saint-Tron. Et là, les supporters de Liège, certains qui me critiquaient, disaient non, reste avec nous, blablabla. Puis en arrivant à Saint-Tron, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit il n'aura jamais le niveau de la division 1 en si peu de temps. J'ai pas beaucoup joué, donc ils se sont dit voilà, on a raison. Le peu de temps de jeu que j'ai eu, voilà, j'ai marqué 4 goals. J'ai quand même montré, et après l'année d'après, ouais, je mets 21 goals, donc j'ai montré à tout le monde que ce niveau, je l'avais. Et voilà, j'ai fait taire beaucoup de bouches et moi, je suis content de ce que j'ai fait.
Donc. Ouais, ça, c'est bien, parce qu'il lâche jamais rien. Donc toujours quand tu viens quand même du championnat autrichien, de Lustenau, tu as ta chance à Liège, tu as ta chance à Saint-Tron. À chaque fois, il saisit sa chance. Donc, il sait avoir vraiment le bon mindset et vraiment être combatif. Et c'est ça qui est important. Et donc, moi, je suis d'accord avec Thomas. Je le vois aussi rester plus dans le championnat belge, dans une plus haute équipe. Et en effet, l'Union est le club parfait pour sa qualité aussi. On en a parlé avec Pocognoli. C'est quelqu'un qui aime bien les battants, ceux qui mouillent le maillot, qui travaillent et tout. Adriano travaille, donc...
Faudrait qu'un site s'attire lire du côté de Chris Lowe.
Mais c'est ça aussi, c'est pas vraiment ce que fait d'habitude l'Union. Ouais. L'Union met rarement un montant, on connaît sa valeur transfert, qu'on peut voir sur Transfermarkt, notamment, c'est plus ou moins 3,5 millions. Et l'Union met rarement une somme là, et Saint-Tron va sûrement demander plus également. Donc,
ça va monter à 5-6, voilà, assez facilement.
Un club belge, mettre un montant comme ça, c'est assez rare.
Ils l'ont fait avec Alaïli, ils avaient mis 6 millions. Bon, certes, c'est pas le même profil, mais ils l'ont fait, donc
jamais. Kalaili, petite parenthèse, était quasiment un ailier et est devenu latéral droit dans un rôle de piston. Ça. Donc, il y a aussi des... Il faut savoir s'adapter aussi au système de l'Union. Ça aussi, ça peut être peut-être une difficulté où toi, tu as dans ton logiciel football cette capacité à savoir, à un moment donné, faire le travail pour t'adapter justement à un système. Quand t'arrives, t'es neuf, t'es frais dans une équipe.
Moi, je m'adapte très vite. Ici, à Saint-Tron, quand je suis arrivé... Je pensais que j'allais jouer en neuf et on m'a positionné directement sur le flanc gauche. Et voilà, je me suis adapté. J'ai aussi eu un peu mon style de jeu, flanc gauche, mais plus axial. Donc voilà, je crois que n'importe quel club où je pourrais aller, je vais m'adapter très vite.
Flanc gauche, on a parlé tantôt dans l'émission. Solis, qui va peut-être partir du club de Bruges. Donc il y aura peut-être une place aussi dans un plus grand club belge comme le club de Bruges pour occuper cette place à gauche. Hein.
T'as pas joué à Bruges chez les jeunes?
Oui, j'ai joué deux ans.
Voilà. Donc pourquoi
c'est,
pas
c'est vrai que c'est un peu la mentalité, soit une glory, t'es dedans quoi. Mais c'est vrai que c'est génial parce que c'est vraiment tu représentes un profil différent de ce qu'on connaît dans les attaquants habituellement. Et c'est souvent ceux-là qui à un moment donné font des différences. Cette année, moi je trouve quand même une réelle filiation entre toi et Lucas Stassin parce que vous êtes tous les deux des joueurs sur lesquels on n'a pas nécessairement compté dans les premiers clubs, sur lesquels, à un moment donné, certains clubs ont fait confiance, t'es monté petit à petit, et comme Lucas Stassin, tu finis dans les meilleurs buteurs. Donc, c'est peut-être la nouvelle graine des attaquants belges, ceux qui, à un moment donné, ne vont jamais rien lâcher.
On parle de l'équipe nationale, tous les deux.
Ouais, effectivement. Bah, c'est vrai que le sujet de l'équipe nationale, il est intéressant, parce que moi évidemment, Tivolio bene alla squadra azzurra. Je veux te voir chez nous en Italie.
Je sais. Mais, les couleurs.
Voilà, je sais que pour toi, c'est très compliqué, parce que t'as évidemment aussi une attache un peu particulière. Mais si tu regardes les sélections, on va parler football maintenant, on va pas parler choix du cœur, je vais te laisser tranquille, il n'y a pas de souci. Romelu Lukaku, numéro 9, et à mon avis, la Belgique part avec ce numéro 9-là jusqu'à ce qu'il il annonce sa retraite. En Italie, Scamacca, Retegui, Keane, ils sont tous très forts, mais il n'y en a pas vraiment un qui est titulaire. Toi, quand tu regardes ton foot, tu dis, moi, mon football, il s'adapterait le mieux au football, justement, de Spalletti ou au football de Rudy Garcia?
Mais franchement, les deux. Mais après, comme je dis, si j'arrive à performer dans un plus grand club, je pourrais me dire, ouais, je peux me faire ma place dans une des deux équipes, en tout cas. Mm-hmm. Mais là, comme ça, avec un peu de recul, je vais vous dire, j'ai pas de préférence. Mm-hmm. Même si toute ma famille est italienne, mais moi, je me sens quand même aussi belge, du coup, moi, les deux équipes me conviendront.
C'est-à-dire que le premier qui t'appelle et qui te sélectionne, t'y vas, quoi?
Maintenant, oui.
Ah, ok, c'est intéressant.
Ah, ouais, mais t'as pas le numéro de
réservation, si, je te le donne tout de suite.
En vrai, il a raison. Moi, à sa place, je ferais pareil. Le premier qui m'appelle, j'y vais. Pour moi, c'est lui qui me veut et c'est cette équipe-là qui me fait confiance.
Mm-hmm. C'est vrai, parce qu'en plus de ça, pendant qu'on tourne, on a appris que Diego Moreira était redevenu belge, ou en tout cas, avait fait le travail pour la nationalité sportive belge. Donc voilà, comme quoi, Rudy Garcia a peut-être déjà trouvé les mots avec certains, peut-être qu'il saura trouver les mots avec toi. c'est intéressant, en tout cas. Et puis, on a un système aussi différent en Belgique, hein, ce système qui, au départ, était un système à 3, redevenu un système à 4, etc. Toi, dans quel système de jeu tu te sens le plus à l'aise en tant qu'attaquant?
Bah, le 4-4-2, moi, ça me convient très bien. Au moins, là, je suis vraiment à ma position avec deux attaquants. Et moi, je serais plus le faux neuf, on va dire comme ça. Mm-hmm. Parce que moi, voilà, ça me dérange pas sur le terrain de courir, de faire beaucoup de courses. Et d'avoir, par exemple, un plus grand neuf. On va dire Tolu, par exemple. Mm-hmm. Mais si on combine les deux joueurs comme ça, je crois qu'autant moi et l'autre attaquant que moi, on pourrait vraiment exploser.
Mmh. On est d'accord que t'es nettement mieux accompagné que seul en tant que numéro 9.
Oui, bien sûr.
Tu te sens beaucoup mieux, effectivement. Je vais te demander quand même, mis à part toi, bien évidemment, quels étaient selon toi les joueurs que tu trouvais les plus forts? Parce qu'on a fait le petit bilan de la saison, c'est bien qu'on le fasse aussi avec toi. En ce qui concerne les gardiens que t'as affrontés en face-à-face, c'est lequel contre lequel tu as eu justement le plus de difficultés quand tu réfléchis?
Je vais justement dire un que j'ai pas joué contre, c'est le Kaufmann, celui d'Anderlecht. Ouais, il a fait une saison incroyable. Ici en playoff, j'avais regardé un match, il a fait au moins plus de 10 arrêts. Donc voilà, pour moi, ça va être le meilleur gardien cette année.
Mm-hmm. Au niveau des défenseurs?
Voilà, c'est un que vous avez pas cité. Moi, je vais dire Burgess.
Burgess,
j'ai joué contre lui, franchement.
Elle est horrible.
C'est une tour en fer. Ouais. Lui, tu le passes pas comme ça. Franchement, c'est vraiment très très compliqué de jouer contre lui.
Et tu dois trouver quoi en tant qu'attaquant comme solution là? Tu vas chercher sur la
contre
profondeur,
lui?
Ouais, contre lui.
T'évites le duel avec lui, tu te mets un peu loin et quand t'as le ballon dans les pieds, tu te retournes face à lui. C'est là qu'il a un peu de défaut. Là.
Ouais, c'est clair.
Et là, tu le prends et t'essaies d'aller en rapidité, mais vraiment, si tu restes collé, faut oublier.
C'est foutu quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on aurait pu le dire, Christian Burgess, nous aussi comme joueur. Les milieux de terrain, bon, Ardon Jahchari était exceptionnel.
Ça, c'est évident, j'allais le dire.
J'ai
joué contre lui, franchement. C'est le Modric ici en Jupiler Pro League.
Carrément. Et au niveau des attaquants, parce que tout à l'heure tu disais une attaque à deux, etc., ça peut être intéressant. On peut te poser la question doublement, c'est-à-dire à la fois l'attaquant avec lequel tu te sentirais le plus à l'aise en tant que numéro 9, et puis également celui que tu as considéré le meilleur en tant que concurrent, parce que c'était tes concurrents, tous ces attaquants.
Bah alors, le meilleur, je vais prendre Solis. La saison qu'il a fait, c'est incroyable. Quand t'as un joueur comme ça dans ton équipe, franchement, tu lui fais la passe et lui, il y va, il fait des siennes. Et après, voilà, un joueur, franchement, c'est incroyable quand tu le vois jouer, cette Tolu. Parce que tu fais un long ballon, il contrôle, tout le bloc avance, il serre, il repart, tu le sens, il marque, même s'il en rate beaucoup. Mais quand t'as déjà les deux joueurs comme ça dans ton équipe, t'es bien.
Et c'est intéressant, tu parles d'un joueur de Genk. Toi, tu te reverrais malgré le passé, revenir à Genk, c'est, tu fermes la porte ou pas du tout?
Mais là, franchement, avec tout le respect que j'ai reçu des supporters de Saint-Tron, moi, je me verrais pas aller là-bas.
Ça serait que c'est la vérité.
Je préfère être honnête. Ce serait une grande trahison pour eux. Comment ils m'ont accueilli quand je suis arrivé là, alors que j'avais eu 0 minute, ils ont déjà eu un chant à mon nom. Franchement, je me verrais pas à Genk.
Et même, il retrouverait son ancien entraîneur, avec qui il n'a pas été titulaire. Donc, après, c'est peut-être c'est aussi peut-être.
Mais après, je m'entendais super bien avec lui, même si il a été cash avec moi. Au moins, je m'entendais super bien.
Il y a aussi un homme important dans ta saison, et j'ai trouvé tellement classe ta déclaration après son départ, le match qui a suivi son départ. C'est que il y avait des problèmes en interne à Saint-Tron. Felice Matsu est parti. On t'a posé la question en interview. T'as dit, mais non, mais c'est pas lui le problème. Si on joue mal, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui se donnent pas à fond, etc. T'as pris son dos à ce moment-là. Tu l'as protégé.
Mais nous, on avait quand même une relation, on va dire, de père et fils. Franchement, il a fait beaucoup pour moi. Il est arrivé premier jour. Il m'a montré la confiance qu'il avait en moi. Et après, comme j'ai dit dans une interview, c'est plus facile de virer un coach que de virer un joueur.
On sait à qui, on sait.
Voilà. Malheureusement, ça s'est passé ainsi. Moi, j'étais vraiment très triste. J'étais très touché de cette décision. Et c'est pour ça que le premier match directement, je lui ai dédié mes deux buts. Je lui ai fait un message quand il est parti. Je l'ai vu aussi au club. J'étais limite j'allais pleurer peut-être. Parce que, franchement, on avait une sacrée relation. Voilà, c'est pas mérité ce qui lui est arrivé. C'est dommage.
C'est vrai que c'est une bonne personne.
Mais c'est lui qui est quand même en grande partie responsable de ton... Enfin, je ne sais pas que c'est lui le responsable, mais c'est quand même grâce à lui, il t'a fait confiance que tu es devenu le joueur que tu es aujourd'hui. Hein, on est d'accord.
Lui, il m'a donné cette confiance. Il m'a donné tellement de confiance. Ouais. Le seul moyen de lui rendre, c'était sur le terrain. Ouais, et je crois que je l'ai bien fait. Ouais. Et après, voilà, malheureusement, les résultats ne sont pas venus, même si on a quand même eu quelques points discutables, volés au Standard et aussi contre Genk. Donc voilà, si on n'avait pas volé ces points, on ne serait pas en play-off 3 et on aurait été en play-off 2.
Alors, comment est-ce que tu vas faire pour être encore meilleur? Ça va être difficile, hein, parce que tu es quand même le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de Saint-Tron. Comment facciamo per essere migliore?
Moi, je vais rester comme je suis. Okay. Je vais pas prendre la tête et commencer à fixer des objectifs qui servent à rien. Je vais rester comme je suis, c'est ça le plus important.
Ouais, mais au niveau du football, je veux dire, comment est-ce que tu vas passer justement le saut de qualité pour devenir encore un joueur qui met encore 20 buts la saison prochaine, etc. Ça passe par les entraînements, tu parlais tout à l'heure, les entraînements individuels, tu vas prendre des entraînements à côté. Est-ce que c'est les équipiers avec lesquels tu es? Est-ce que c'est peut-être justement ton choix de carrière? Le club que tu choisiras pour après Saint-Tron?
Je pense que ça va être ça, le choix de carrière. Si tu fais le mauvais choix, ben ça ira pas. Tu dois vraiment prendre le club où tu vas te sentir le mieux et ils ont vraiment confiance en toi. Sinon, tout le monde peut faire des choix comme ça.
Ouais, je peux comprendre.
Le plus important, c'est de rester soi-même et je pense que ça, il a compris.
Oui, bien sûr.
Adrien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce petit passage dans l'émission. Je t'écoute.
Mais je veux aussi dire merci à vous, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous avez voté tout au long de la saison pour moi. Et merci aussi aux personnes qui m'ont donné les points bonus.
Ah oui.
Donc voilà, je vous remercie tous.
C'est avec vraiment, vraiment grand, grand plaisir. C'est parce que tu le mérites et tu as été objectivement chaque semaine le meilleur joueur. Voilà, donc merci beaucoup. Merci monsieur d'avoir été présent dans l'émission. Tu peux reprendre ton trophée bien tranquillement. Quant à vous, on vous donne évidemment rendez-vous dès la saison prochaine pour encore plus de surprises, encore plus de belles choses. On va travailler, on va sans doute être encore une fois meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez jamais, le football belge ne s'arrête jamais parce que le football time ne s'arrête jamais. Ciao, ciao.